Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité, des milliers de déplacés fuyant les combats dans le Massissi au Nord Kivu sont actuellement installés dans des écoles, des églises et même au stade de football de Minova au Sud Kivu voisin. La société civile de Kalehe redoute que ces déplacés qui manquent de tout soient affectés par des maladies. Poursuite ce mardi à Cape Town en Afrique du Sud du forum minier Indaba. Il s'agit d'un cadre d'échange qui offre beaucoup d'opportunités aux entrepreneurs congolais dans la sous-traitance et dans le secteur extractif. Explication dans ce journal. Notre invité, c'est le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo, explique les étapes à suivre et les critères pour la cooptation des chefs coutumiers dans les assemblées provinciales. Madame, messieurs, bonsoir. Des milliers de déplacés fuyant les combats dans le territoire de Massissi au Nord Kivu continuent d'arriver à Minova, dans le territoire de Kalehe au Sud Kivu voisin. Des témoins affirment à Radio Kapi que ces déplacés sont installés dans des écoles, des églises et même au stade de football de Minova. Le président de la société civile du territoire de Kalehe redoute la résurgence des maladies parmi ces déplacés qui manquent de tout. Delphin Birimbi a été joint par Emmanuel Elamejouakabedi.
On continue à enregistrer les déplacés, donc les gens continuent à arriver à Minova, puisque la question du Nord Kivu continue à s'empirer. Alors la situation humanitaire sur l'axe Minova devient vraiment chaotique. Ils viennent de différents petits villages du Nord Kivu. Il y en a ceux qui sont dans des familles d'accueil, et les autres passent la nuit à la Belle Étoile, les autres ont occupé les salles de classe, des églises, avec des risques qu'on peut enregistrer plusieurs cas de maladie. Il y a plusieurs enfants, oui, puisqu'ils ont vidé leurs écoles au Nord Kivu, du côté Beremana, du côté Chacha, du côté Kabasa, du côté Renga. Il y a plusieurs enfants, des femmes et des hommes, tout le monde est là. Et la plupart des écoles qui sont occupées par les déplacés, là on n'étudie plus. Certaines sont dans des familles d'accueil, mais la majorité est vraiment à la Belle Étoile, dans des salles des églises, des écoles. Il y a aussi dans les grandes salles de réunion, et d'autres sont dans des cas. Il y a les cas de Mubimbi, il y a les cas de Chungiri, et il y a les cas aussi de Kanyamiteru. Donc c'est là où la majorité de ces déplacés sont concentrés maintenant.
Restons dans la région où les activités ont tourné au ralenti ce mardi au marché de Minova. Les marchands venus principalement du groupement de Mupfunishanga sont en fuite et beaucoup de mamans de Goma qui s'approvisionnent souvent en produits agricoles à partir de ce marché n'ont pas pu se déplacer vers là. Le trafic routier reliant la cité de Sake à Minova reste actuellement suspendu à cause de l'occupation de village des Chacha par les rebelles du M23. Pour en parler, retrouvons à Goma Denise Lukeso.
Mardi, jour du marché public de Minova, dans le groupement Bouzi, territoire de Kalehe, au sud Kivu. Ce grand marché est connu par l'abondance des produits agricoles diversifiés qui alimentent ces marchés qui se tient chaque mardi et vendredi de la semaine. Beaucoup sont des marchands qui viennent de Goma, Sake et des villages du groupement Mufunishanga. Ils viennent vendre ou acheter. Mais seulement voilà, l'ambiance n'est pas au rendez-vous ce mardi comme d'habitude. Jean-Claude Moukoulou, un habitant de Minova que nous avons joint, nous décrit l'ambiance qui y règne.
Les gens qui viennent se procurer des biens, des produits agricoles dans les marchés, les uns sont en fuite, les autres des Goma qui n'ont pas l'accès. Certaines mamans ont été obligées d'emprunter la voie lacustre avec tous les risques, bien sûr. Donc il y a urgence que la route nationale numéro 2 soit réouverte pour que les activités puissent se tenir normalement. Les mamans qui cultivent les maïs, les bananes plantées, ceux qui proviennent des champs, ils amènent au marché mais ils n'ont pas d'argent puisque les gens qui achètent ne sont pas venus.
Conséquence de cette situation, à Goma par exemple, les légumes, fruits et autres produits champêtres en provenance de Minova sont devenus rares sur le marché et le coin de la ville. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Et puis, 18 personnes tuées et plusieurs biens pillés. Bilan de deux attaques menées hier lundi après-midi par des rebelles ougandais de l'EDF dans le groupement de Bangolé et de Bakwanza dans le territoire de Mambasa. Des sources locales affirment à Radio Kapi que les victimes, principalement des femmes et des enfants, s'est trouvées au champ. Ce carnage a provoqué du coup le déplacement massif des habitants de la zone. À Bounia, Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis la semaine dernière que plusieurs villages de la chefferie de Babila-Bakwanza subissent des exactions d'un groupe de rebelles ADF qui fuient des opérations conjointes FARDC armée ougandaise dans le sud du territoire d'Irumu. Dans son rapport de monitoring publié lundi sur la situation sécuritaire dans la zone, la nouvelle société civile congolaise déplore des attaques de ces hommes en armes dans la profondeur des forêts ainsi que des champs des paysans. Elle dit avoir enregistré également 6 cas de pillage et 4 attaques perpétrées par ces inciviques dans les villages Bioka, Manzia et Bunzunzwa. Le bilan provisoire avancé par cette structure citoyenne est de 18 personnes, dont 6 femmes tuées à l'arme blanche. 15 corps, dont 5 hommes, ont été ramassés dans ces villages et la fouille continue, indique des sources concordantes. Presque toutes les activités sont paralysées dans ces entités. Contacter l'administrateur du territoire, le colonel Jean-Baptiste Matadi, indique que l'armée a lancé des opérations de traque de ces rebelles afin de permettre le retour des populations dans la zone. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Économie à présent. Poursuite ce mardi du forum minier Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Cet événement annuel pour des miniers constitue, à n'en point douter, un cadre d'échange qui offre beaucoup d'opportunités aux entrepreneurs congolais dans la sous-traitance et dans le secteur extractif. À cette occasion, le directeur général de l'autorité de la sous-traitance dans le secteur privé a insisté dans son discours sur la prise en compte des multinationales et du contenu local de la chaîne de valeur. Explication de Cynthia Bachizina Bizana.
Devant un parterre d'investisseurs, Miguel Cachel a mis en exergue le rôle de l'investisseur modèle en RDC, c'est celui de soutenir la chaîne de valeur et intégrer dans le déploiement de ses activités des entreprises et de la main d'œuvre locale, ce qui permettra une redistribution équitable de la richesse.
Tu ne peux pas être toi-même, tu es investisseur, tu es une société principale, toi-même tu crées des sociétés, des chaînes de valeur, tu te payes à l'extérieur et tu laisses qui est le vent et la poudre. Tu ne peux pas être une société qui a investi 4-5 milliards de dollars, mais tout autour de toi, de la mine, on constate une pauvreté extrême.
Une prise de position saluée par des entrepreneurs congolais dans la sous-traitance, également présent à Indaba, le cas de Dauphin Dikoulou.
Parce que nous sommes congolais, nous devons profiter de nos richesses, nous devons profiter des opportunités que notre pays nous offre. Il est impératif que ces miniers le comprennent. D'abord, dans ce sens où on leur fait un rappel, mais aussi, si la situation l'exige, de pouvoir les contraindre.
À compétences égales, chances égales, beaucoup d'entrepreneurs congolais, fournisseurs de biens et services, plaident ainsi pour les mêmes opportunités que leurs collègues étrangers, surtout lors des processus d'appel d'offres.
Cynthia Bachizina Bizana sur Radio Okapi. Après 2 mois passés loin de leur maison, les habitants de certains quartiers de la ville de Kinshasa commencent à regagner leur résidence dans certains quartiers comme Pompage, Angaliema, Ndano et Salongo dans la commune de Limete. Sur place, les impacts d'inondations sont encore visibles dans leur maison où ils ont perdu presque tout. À certains endroits, l'eau du fleuve n'a pas baissé. Un reportage de Babel Mpongo Massimango, Marie-France Mungindou et Greta Lulendo.
Dans les communes de Matete et Limete, la population vivant tout le long de la rivière Njili est confrontée à un sérieux problème de déplacement car l'eau de l'inondation n'est pas totalement partie. Ils doivent leur déplacement à Monsieur Lemons, un soixantenaire révolu. Celui-ci s'adonne au transport des passagers à l'aide d'une pirogue moyennant quelques sous.
Nous faisons ce travail pour aider nos frères. Je l'ai fait depuis 1971. Je traverse les gens moyennant 200 francs.
Toutefois, pour les habitants de ces quartiers, être doté des passerelles pour faciliter la traversée est leur désir ardent.
Le gouvernement doit curer la rivière Njili avec les dragues pour que l'eau coule librement. Nous avons construit le long de la rivière, mais notre souci est d'avoir un pont pour nous faciliter la vie.
À l'ouest de la ville, dans le quartier Pompage, le spectacle est désolant. Beaucoup de gens ont perdu leurs biens et lancent un SOS.
Que l'État nous vienne en aide, nous les victimes de cette inondation. Ici, dans mon salon de coiffure, les sièges et autres articles étaient complètement immergés, plongés dans l'eau qui avait atteint 3 mètres de hauteur.
Et comme le malheur ne vient jamais seul, tous ces habitants vivent dans le noir et sans eau potable.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, c'est depuis plus de 2 mois qu'il n'y a pas d'eau potable à Kananga après que les pluies diluviennes ont endommagé systématiquement les tuyaux de la régie des eaux. Cette situation inquiète aujourd'hui le coordonnateur du réseau des organisations non gouvernementales des droits de l'homme au Congo, Arthur Padingaï, met les dirigeants de la régie des eaux devant leurs responsabilités. Ces propos ont été recueillis par François Kadima.
Il est retenu que les attributions de l'État d'assurer le bien-être social de sa population et de faciliter son accès aux services sociaux de base échappent bien à notre province et à notre État congolais. Une explication n'est admise quand il faut répondre à ses attributions et à ses obligations en tant qu'État, qui sont de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits fondamentaux reconnus aux citoyennes et citoyens par les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme que l'État congolais a ratifié. Le Reprodoc recommande ce qui suit: d'accélérer dans un délai raisonnable les travaux de rétablissement des problèmes en vue de trouver solution à cette situation de pénurie d'eau à Kananga, de multiplier la vente de l'eau dans tous les quartiers et dans toutes les 5 communes au moyen des camions de la régie des eaux pour aider la population à consommer l'eau potable en vue d'éviter les maladies d'origine hydrique dont souffre actuellement la population. La diligence est de l'État congolais et de la province du Kasaï central nous obligera.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, enfin de l'eau potable pour les détenues femmes de la prison d'éducation de l'État de Beni au Nord Kivu. C'est grâce à la MONUSCO et après presque 2 semaines de coupure d'eau potable. Un compartiment abrite une centaine de détenues femmes et de l'autre 45 mineurs. Des précisions avec le directeur de l'établissement pénitentiaire, Sefou Kambalé, qui a lié, s'est confié à Sadiq Aboubakar.
Nous avons au moins 10 jours qui n'est pas d'eau au niveau de la prison pour femmes ainsi qu'au niveau de l'EG de Beni. L'eau d'abord c'est la vie. Vous savez que les toilettes d'eau les détenus femmes utilisent ainsi que le mineur, c'est les toilettes qui sont utilisées par de l'eau. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de l'eau pour les détenus femmes, monsieur le journaliste, c'est une catastrophe. En arrivant auprès du chef de centre de la régie des eaux, Beni, il nous a dit qu'il y a un problème de connexion de l'eau. Maintenant, il est en train de nous dire non, de patienter jusqu'à maintenant, monsieur le journaliste, il vous dit que c'est presque au moins 10 jours qu'il n'y a pas d'eau. Jusque-là, il n'y a pas une suite favorable quant à ce concerne de l'eau. On a déjà alerté l'autorité locale, qui est le maire de la ville, pour dire qu'avec l'appui de la MONUSCO pour l'eau aux détenus femmes ainsi qu'aux mineurs, c'est un besoin tellement ressenti. Je dis encore mes sincères remerciements à notre cher partenaire qui est la MONUSCO, qu'il puisse continuer à nous appuyer dans de telles œuvres qui est tellement louable.
Dans la province du Kwilu, les membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale ont été installés hier après-midi lors d'une session extraordinaire et à cette occasion, le président du bureau d'âge, Oscar Nsaman, a plaidé pour la réhabilitation rapide de la route nationale numéro 1 qui va de Bandundu à Mongata, à Bandunduville, Irène Mboma.
C'est dans l'après-midi de lundi 5 février 2024 que les nouveaux députés provinciaux du Kwilu ont pris pour la toute première fois possession de leur siège à l'hémicycle provincial à Bandunduville. Cela à l'occasion de la plénière inaugurale de la législature 2024-2028 présidée par le directeur administratif de cette institution parlementaire, Enoan Mbame, qui a procédé à l'installation du bureau provisoire. Le dit bureau sera conduit par le doyen en âge Oscar Samane et Elie Djofa, qui sera secondé par les deux plus jeunes députés, à savoir Papi Labila Eli Djofa et Joël Ibila Baeli de Kikwit, respectivement premier et deuxième secrétaire rapporteur. Dans son discours de circonstances, le président du bureau d'âge a présenté les plaidoyers suivants.
Que quelques projets prioritaires soient pris en compte par le pouvoir central. Il s'agit notamment d'asphalter des tronçons routiers si après Mongata, Bandundu, Bagata, ainsi de suite.
Signalons que plusieurs autorités provinciales ont été présentes à cette cérémonie, dont le gouverneur des provinces Willy Itchundala qui vient d'être aussi réélu. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, après l'évacuation par les gendarmes des députés de l'opposition de l'hémicycle, l'Assemblée nationale vient d'adopter aujourd'hui la proposition de loi de reporter la présidentielle au 15 décembre 2024 et de laisser au pouvoir le président sortant Macky Sall jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau chef de l'État. Ce vote a été tout simplement contesté à Dakar. En Grande-Bretagne, le roi Charles a été diagnostiqué d'une hypertrophie de la prostate. date, selon un communiqué du palais de Buckingham. Le roi a commencé hier des traitements réguliers. Âgé de 75 ans, le roi Charles va se retirer de ses engagements publics et la reine Camilla et le prince William vont le remplacer pendant son traitement. La Cour d'appel fédérale américaine a rejeté ce mardi après-midi la demande d'immunité pénale de Donald Trump, rouvrant ainsi la voie à son procès à Washington où il est accusé d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. Les trois juges ont décidé ainsi de mettre en balance l'intérêt revendiqué par l'ex-président américain à une immunité pour faciliter la poursuite de la procédure qui confirme le prononcé en première instance de décembre dernier.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Yetipo, parle des étapes à suivre et des critères pour la cooptation des chefs coutumiers dans les assemblées provinciales. Il s'entretient avec Babel Mpongo Massimango.
Monsieur Yetipo, bonjour.
Bonjour.
La CENI a clôturé la publication des résultats des élections de décembre dernier. Pour les provinciales, il reste encore la cooptation des chefs coutumiers. Qu'en est-il?
Par rapport aux élections des députés provinciaux, l'étape qui reste maintenant et que la CENI est en train de préparer, c'est la cooptation des chefs coutumiers. Vous savez, la loi électorale précise que au niveau des assemblées provinciales, en dehors des députés élus au suffrage universel direct, il y a aussi un autre mode de désignation des députés provinciaux qui concerne les chefs coutumiers. Ce mode s'appelle la cooptation. Et la CENI est en train justement de préparer cette cooptation des chefs coutumiers.
Comment se fait au fait cette cooptation et pourquoi coopter les chefs coutumiers?
La cooptation des chefs coutumiers comprend trois étapes. La première étape, c'est l'étape de présélection. Elle se déroule au niveau de chaque chef-lieu des territoires. Le chef d'antenne de la CENI, entouré du logisticien et de l'informaticien, convoque au chef-lieu des territoires tous les chefs coutumiers du territoire, chacun avec ses deux suppléants. Et au chef-lieu des territoires, il procède à l'assemblée des présélections qui se déroule globalement en deux jours. La première journée est réservée aux chefs coutumiers seuls. Ils doivent s'entendre entre eux pour obtenir un consensus désigné de manière consensuelle, un chef coutumier ou deux chefs coutumiers qui seront présélectionnés. Et si à cette étape-là, on ne trouve pas le consensus, les jours suivants, ils vont devoir le faire par vote. Et une fois terminée cette étape, un procès verbal est signé, rempli en bonne et due forme et envoyé au secrétariat exécutif provincial. Après cette étape de présélection qui se déroule au niveau de chaque territoire, il y a une deuxième étape qu'on appelle l'assemblée des désignations qui se déroule au chef-lieu de province. Tous les chefs coutumiers présélectionnés au niveau des territoires se rencontrent au niveau de la province pour l'assemblée des désignations sous la présidence du secrétaire exécutif provincial de la CENI. Et une fois qu'on termine cette assemblée des désignations, un procès verbal est également signé et les noms des chefs coutumiers désignés sont envoyés, n'est-ce pas, à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, elle est chargée, n'est-ce pas, pour la cooptation ou la validation des mandats des chefs coutumiers. Pourquoi on les coopte? Parce que les chefs coutumiers, de par la loi précise qu'ils doivent être cooptés et non élus. Ce sont les chefs de tout le monde dont leur mode d'accession, n'est-ce pas, à l'Assemblée provinciale, c'est la cooptation et non les élections. C'est écrit dans la loi.
Ces chefs coutumiers cooptés, quelle est la durée de leur mandat? Et puis, est-ce qu'ils jouent le même rôle que tout autre député élu?
Oui, une fois que le chef coutumier est coopté au niveau de l'Assemblée provinciale, il devient député provincial au même titre que les députés élus. Il a donc un mandat de 5 ans. Et après 5 ans, comme il a été coopté et que la cooptation tient compte du système de la rotation des chefs coutumiers par territoire, mais aussi un deuxième critère, c'est le critère de la diversité ethnique. Vous savez que notre pays, c'est une mosaïque ethnique. Et puis le troisième critère, c'est le respect de genre. Ce sont les trois critères principaux qui président à la désignation des chefs coutumiers. Et donc, s'il a été coopté, Il a un mandat de 5 ans et lorsque les députés provinciaux vont, n'est-ce pas, en vacances parlementaires, lui aussi va en vacances parlementaires pour devoir des redevabilités.
Et il a aussi le pouvoir de proposer des édits, par exemple.
Oui, madame, c'est un député provincial. La loi l'autorise, n'est-ce pas, à proposer également des édits qui sont en fait, entre guillemets, des lois au niveau des provinces. On les appelle des édits. Et c'est un député provincial au même titre que tous les autres.
Oh, merci, monsieur Tipo, pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup à la radio Okapi.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Jean-Baptiste Itipo, interrogé par Babel Mpongo Massimango. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Merci à Jude Bilanda et Pelekipe Lamondo qui m'ont accompagné à Kinshasa. Il est 18h20.